Décryptage. Anne Corpet.
Le Premier ministre hongrois a pris ce matin la tête du Conseil de l'Union européenne, une fonction essentiellement symbolique attribuée tour à tour à chaque État membre, mais qui offre une belle tribune à Viktor Orbán. Fort du succès du Rassemblement national en France lors des législatives de ce dimanche et de la progression des droites radicales aux élections européennes, Viktor Orbán espère parallèlement créer une nouvelle coalition au Parlement pour imposer une vision souverainiste de l'Europe. Le Premier ministre hongrois a promis d'agir avec impartialité à la tête du Conseil de l'UE, mais son arrivée à la présidence inquiète à Bruxelles, où il s'est plus souvent illustré par sa capacité de blocage que par son sens du compromis. Et avec nous en studio pour évoquer cette présidence hongroise du Conseil de l'UE, Romain Le Quignou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général d'Eurocréatif, premier laboratoire d'idées qui travaille sur l'Europe centrale et orientale. Merci d'être avec nous. Alors, pendant les 6 prochains mois, Viktor Orbán va donc présider les sommets des dirigeants de l'UE. Il succède au chef du gouvernement belge, Alexander De Croo, qui, lui, a distillé un petit conseil jeudi dernier à l'issue du sommet des chefs d'État. On l'écoute au micro de Julien Chavannes.
Être président du Conseil de l'Union européenne, ça ne veut pas dire que vous êtes le chef de l'Europe. Ça implique que vous êtes celui qui doit faire des compromis. Et être dans la position de celui qui cherche des compromis, ça peut être intéressant, au moins une fois dans votre vie. C'est ce que je conseille vraiment à M. Orbán.
Alors, tout d'abord, Romain Le Quignou, rappelez-nous ce qu'est le Conseil de l'Union européenne. Et puis ensuite, vous nous direz quel est le rôle de son président.
Bien sûr. Alors, le Conseil de l'Union européenne, c'est l'institution au sein de l'Union européenne qui négocie et qui adopte les textes législatifs au sein de l'Union européenne. Ensuite, je pense que le Premier ministre belge a raison de mentionner le fait que c'est d'abord un rôle de compromis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, c'est avant tout une fonction symbolique plus que décisionnelle. C'est une fonction qui arrive tous les 6 mois, tous les 13 ans, 13 ans et demi même. Et deuxièmement, c'est une fonction qui demande coordination et médiation. C'est au final assurer la continuité et la coordination des travaux législatifs et surtout, et là c'est peut-être le plus inquiétant, maintenir les bonnes relations entre les États membres.
Alors la médiation, ce n'est pas le point fort de Viktor Orbán. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de contourner une présidence qui tomberait dans l'obstruction, sa pratique habituelle du Premier ministre hongrois? Parce que ce président doit fixer, si j'ai bien compris, l'agenda du Conseil de l'UE. Est-ce que s'il refuse, par exemple, d'inscrire un dossier à l'agenda, les autres peuvent intervenir?
Alors oui et non, parce qu'il y a quand même certaines limites. La première limite, c'est déjà que le programme de la présidence hongroise s'inscrit dans un programme plus large, un programme qui s'étale sur 18 mois, qui est fait en trio. Donc la Hongrie a fabriqué ce programme avec 2 autres États membres, la Belgique et l'Espagne. Deuxièmement, la deuxième limite, c'est que la présidence va préparer les réunions, va coordonner les réunions, mais n'a pas vocation à décider de l'ensemble des sujets débattus. Encore une fois, c'est de la coordination et la Hongrie, Viktor Orbán, ne sera pas à la tête de l'ensemble des réunions, notamment la réunion sur la Commission des affaires étrangères ne sera pas sous son chapitre. Et on peut dire aussi finalement que il y a deux sujets sur la présidence tournante. Il y a un sujet beaucoup plus technique qui est assuré par des administrateurs, par les diplomates, et un sujet plus politique. Vous l'avez dit dans votre introduction, le problème de cette présidence qui inquiète l'Union européenne, les États membres, c'est plutôt qu'elle pourrait offrir une tribune politique à M. Orbán. Et c'est le cas, ça va se faire. Mais il y a tout un travail derrière qui est beaucoup plus important de coordination, qui est technique.
Alors, Viktor Orbán n'a en tout cas pas pu peser sur l'attribution des postes clés de l'UE. Malgré son opposition, les dirigeants se sont notamment entendus pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Écoutez la déclaration courroucée du Premier ministre hongrois à son arrivée au sommet de Bruxelles. C'était jeudi dernier.
Il y a un accord, et je dois le qualifier de honteux. L'accord a été conclu sur la base d'un accord entre 3 parties, pas sur la base de nos programmes ou de nos performances passées. La droite a formé une coalition de mensonges avec la gauche et les libéraux. C'est un affront aux électeurs européens, dont la majorité a voté pour la droite. Les électeurs européens ont été trompés.
Alors cette entente sur les postes clés de l'UE, elle est intervenue juste avant la fin du mandat belge à la présidence tournante, et d'ailleurs en un temps record. Est-ce que c'était pour éviter que le Premier ministre hongrois tente de gripper le processus ?
Alors, je pense que c'est une des dimensions qu'il faut prendre en compte, effectivement. La présidence hongroise sera dans une période particulière. C'est une période où on aura surtout la nomination des top jobs. On a eu les trois premiers, les trois plus importants, mais il y aura aussi la nomination de l'ensemble des commissaires européens. Donc oui, ça, c'est probablement l'un des éléments qu'il faut retenir. Après, il faut retenir aussi l'élément qui est politique, tout simplement, où il y a une volonté des principaux groupes, des groupes majeurs au sein du Parlement européen, des groupes politiques européens, les sociaux-démocrates, les libéraux et le PPE, les conservateurs, finalement d'avoir une issue favorable et rapide sur l'entente, puisque cette coalition qui est moins forte qu'il y a 5 ans n'a pas besoin de négocier, n'a pas forcément envie d'avoir des difficultés de négociation et veut aller vite, nommer et ensuite passer à autre chose. Et il y a peut-être un troisième élément aussi. On se souvient il y a 5 ans que M. Macron avait été dur en négociation, avait essayé d'influencer la nomination des top jobs et ça avait pris plus de temps. Ce n'est pas le cas cette fois-ci pour les raisons qu'on connaît ici.
Et juste avant de prendre son poste à la tête du Conseil de l'UE, Viktor Orban, lui, a annoncé, c'était hier, qu'il entendait créer un nouveau groupe politique au Parlement européen, le groupe des Patriotes. Où en est cette initiative et est-ce que Viktor Orban pourra continuer à œuvrer pour la faire aboutir tout en occupant la présidence tournante?
Les Patriotes pour l'Europe, c'est le groupe qui a été créé par M. Orban aux côtés du chef de file du parti conservateur de droite radicale, d'extrême droite, disons-le, autrichien, le FPE, et Andrej Babiš, qui vient de quitter le groupe ALDE aux côtés de M.
Tchèque.
Macron. Tchèque, voilà, ancien Premier ministre et potentiel futur Premier ministre tchèque. Ce groupe est composé de trois partis, donc, qui sont, on pourrait, si on veut résumer rapidement, des populistes conservateurs et autour de trois axes, la paix plutôt que la guerre, l'ordre et la sécurité plutôt que l'immigration et enfin le développement économique plutôt que la stagnation. Finalement, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, c'est d'avoir une Europe qui est transformée, qui permette aux États membres d'être plus souverains et qui ne soit pas dictée ou par le diktat des élites bruxelloises.
Et est-ce que le Rassemblement national, qui est sorti en tête des suffrages hier lors du premier tour des législatives en France, pourrait se rallier à ce groupe? Autrement dit, la victoire du RN en France, est-ce qu'elle sert les objectifs européens de Viktor Orban?
Alors là, c'est la grande inconnue. On connaît les relations entre M. Orban et Mme Le Pen, des relations qui étaient plutôt froides au départ et qui se réchauffent au fur et à mesure que Mme Le Pen prend du galon, si je puis m'exprimer ainsi, puisque Mme Le Pen est de plus en plus proche du pouvoir en France et forcément, ça attire les convoitises en Europe et notamment de M. Orban. Pour l'instant, on ne sait pas du tout si Mme Le Pen rejoindrait ce groupe. Elle fait partie du groupe Identité et démocratie au niveau européen. Elle est le chef de file de ce groupe, notamment depuis le départ ou l'exclusion de l'AFD allemand. Il va falloir voir si Mme Le Pen est en contact ou non avec M. Orban. On peut s'attendre aussi au fait que le RN n'a pas forcément suivi ces négociations, n'a pas forcément attendu la volonté de M. Orban de créer un nouveau groupe. Donc pour l'instant, c'est les chaises musicales au niveau des droites radicales européennes et on ne sait pas du tout s'il va y avoir une recomposition ou une décomposition.
Une dispersion. Alors, la Hongrie a présenté son slogan pour cette présidence tournante, Make Europa Great Again, rendre toute sa grandeur à l'Europe. Il est évidemment directement emprunté à la campagne de l'ex et peut-être futur président américain Donald Trump et il a fait grincer des dents à Bruxelles. Mais il ne faut pas y voir une provocation, a assuré l'ambassadeur hongrois auprès de l'UE, Balint Odor, au micro de Daniel Valo. On l'écoute.
Moi, je pense qu'on fait référence à une présidence active et on aimerait que l'Union européenne, l'Europe, joue un rôle plus important et autonome dans le monde. Et aussi, si je me réfère au slogan de la première présidence hongroise qui a eu lieu en 2011, on a déjà eu le slogan « Europe forte ». Donc, pour nous, on y attache particulière importance.
Ce slogan montre au moins l'admiration que Viktor Orban porte à Donald Trump. Donald Trump qui pourrait être réélu à la Maison-Blanche avant la fin du Premier ministre hongrois à la présidence tournante du Conseil de l'UE. Ça pourrait être un moment politique fort pour Viktor Orban ?
Bien sûr, on voit toute la malice de la diplomatie et des politiciens hongrois, je pense. Évidemment que c'est un clin d'œil à M. Trump. Et dans le même temps, c'est aussi faire de l'Europe puissance, ce que beaucoup d'États défendent. Alors, c'est assez ingénieux, c'est assez provocateur. Mais en tout cas, oui, en ce qui concerne Trump, la possibilité de voir Trump gagner serait une bonne nouvelle pour Orban et ses alliés au niveau européen. Orban, qu'il faut le rappeler, est le chouchou, entre guillemets, de Trump aux États-Unis et des conservateurs radicaux américains.
Et l'ambassadeur hongrois auprès de l'UE qu'on vient d'entendre évoquait la précédente présidence tournante occupée par son pays. C'était en 2011. Alors à l'époque, le dirigeant hongrois était au pouvoir que depuis un an. Aujourd'hui, il est celui qui a la plus longue longévité au sein de l'UE. Est-ce que sa capacité de nuisance, sa force politique au sein de l'UE a grandi au fil des années ?
Écoutez, M. Orban est au pouvoir depuis 2010. Il a eu un court mandat à la fin des années 90 également. Depuis 2010, un an après, il prend la présidence. Les bases du système Orban, de son système politique illibéral, comme il l'appelle, étaient déjà posées. C'est-à-dire qu'on voyait déjà une volonté de changer le système politique, de prendre le contrôle de certaines institutions clés, notamment la justice ou les médias. Donc les bases étaient déjà là. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est au pouvoir. Il a gagné 4 mandats de suite. Effectivement, Orban est depuis tout ce temps l'homme qui a proposé au niveau européen le changement d'un système pour son pays, qui est proposé à d'autres États membres. On se souvient de M. Salvini qui disait vouloir mettre Budapest à Rome, par exemple, mais qui a aussi de l'influence au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il se pense comme un nouveau chef de file et qui commence un nouveau groupe politique.
Alors la Hongrie a identifié 7 priorités pour cette présidente tournante. Les deux premières, la restauration de la compétitivité des entreprises, le renforcement des capacités de défense sont, on va dire, consensuelles. La troisième porte sur la politique d'élargissement de l'UE. Un sujet plus problématique, quelles sont les priorités d'Orban sur ce dossier ?
Sur l'élargissement, c'est très simple. Monsieur Orban veut l'élargissement pour les pays des Balkans et notamment pour les pays dont il est proche politiquement, c'est le cas de la Serbie de M. Vucic, et économiquement. La Hongrie investit économiquement dans les Balkans, dans plusieurs pays. C'est la Serbie, comme je l'ai mentionné. Il y a aussi la Bosnie-Herzégovine, mais il y a aussi la Macédoine du Nord, par exemple, avec un changement de gouvernement qui serait potentiellement plus proche de Monsieur Orban.
Et Budapest accepte l'ouverture formelle des négociations d'adhésion avec Kiev, mais au sujet de l'Ukraine, la Hongrie s'est toujours distinguée des autres États membres. Son attitude vis-à-vis de Kiev inquiète d'ailleurs Katalin Nitsche, membre du parti d'opposition hongrois Momentum et députée européenne au sein du groupe Renew. Elle s'interroge d'ailleurs sur les capacités du Premier ministre hongrois à incarner le rôle d'intermédiaire honnête, honest broker en anglais, que lui assigne sa nouvelle position. Je vous propose de l'écouter au micro de Daniel Valo.
Au cours des dernières semaines, durant la campagne électorale pour les européennes, Viktor Orban a présenté Ursula von der Leyen comme une ennemie de la Hongrie et il a accusé la bulle de Bruxelles, comme il dit, de choses absolument scandaleuses et qui sont des mensonges. Par exemple, de vouloir envoyer les jeunes hongrois faire la guerre. Je m'inquiète de savoir s'ils seront capables de mettre en œuvre des mesures très importantes, par exemple l'utilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. J'espère que la présidence hongroise a pris conscience de l'énorme responsabilité qui lui incombe à cet égard. Et j'espère qu'elle ne se laissera pas dominer par sa lutte incessante avec la bulle bruxelloise.
Est-ce que Viktor Orban va maintenir sa politique de blocage vis-à-vis de l'Ukraine ? Je pense notamment à ces 6 milliards d'euros d'aide militaire qui sont toujours bloqués. Alors que son nouveau rôle officiel, c'est celui d'un conciliateur, d'un médiateur. Comment il va concilier ça ?
Il y a fort à parier qu'Orban continue son rôle de blocage sur l'Ukraine parce qu'il sait que ça peut lui rapporter gros au niveau des négociations avec les autres pays des États membres de l'Union européenne, mais aussi parce que le sujet de l'Ukraine est un sujet politique désormais en Hongrie, politique pour la raison de la guerre, parce que M. Orban et ses alliés ont des positions pro-russes, et si ce n'est pas pro-russe, alors ce sont des propositions qu'on appelle pro-paix, vouloir faire la paix absolument, ce qui est très controversé. Il y a aussi le dossier des minorités hongroises en Ukraine, et enfin, il y a le dossier de l'argent, et notamment sur les fonds de cohésion, puisque M. Orban, plus ou moins à juste titre, non sans exagération, pense que l'élargissement de l'Union européenne vers l'Ukraine entraînerait une réorganisation totale du budget de l'Union européenne et pourrait faire que la Hongrie et d'autres pays qui ont été membres depuis 2004 deviennent contributeurs nets et non plus simples receveurs de budget européen.
Mais ça, ce ne serait pas le cas pour la Serbie ou le Monténégro dont ils souhaitent l'intégration ?
Non, tout à fait, parce qu'on parle de pays avec une taille, notamment le nombre d'habitants, potentiel économique et de besoins de réforme. Je veux dire, sur l'Ukraine, on parle aussi de la reconstruction qui va être extrêmement coûteuse. Donc oui, c'est totalement différent. Ce sont deux sujets différents. Et Orban a des intérêts directs politiques et économiques dans les Balkans.
Alors, autre priorité hongroise qui annonce de probables débats houleux à Bruxelles, la question migratoire. Pardon, que souhaite Orban, dont le pays, il faut le rappeler, a été condamné à une amende de 200 millions d'euros pour non-respect du droit d'asile?
Là encore, M. Orban n'est pas sans contradiction dans ce qui concerne l'immigration. Alors, il a une politique très ferme de fermeté. On sait qu'il a mis des barrières, des grillages, des murs, à ses frontières méridionales, notamment avec la Serbie. Lui, ce qu'il veut, c'est empêcher l'immigration irrégulière, notamment les flux venant du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, en Europe, et notamment en Hongrie. Il ne veut pas qu'il y ait de passage, etc. Dans le même temps, Monsieur Orban, depuis plusieurs années, a fait de son pays a besoin économiquement d'immigration. Donc, Monsieur Orban et d'autres pays de la région font en sorte de faire venir des migrants économiques d'Asie, que ce soit les Philippines, le Népal, le Bangladesh, etc., pour venir travailler en Hongrie. Donc voilà, il y a une opposition franche, directe sur l'immigration illégale, mais dans le même temps, il y a un besoin de migrants économiques.
Et est-ce que les scores de l'extrême droite législative en France, mais aussi dans d'autres pays, des élections européennes vont aider Viktor Orban dans sa volonté d'avoir une politique migratoire plus stricte, je pense à mettre en place notamment des nouvelles solutions pour gérer les flux comme celle en Albanie envisagée par l'Italie ?
Bien sûr, on a vu la victoire de l'extrême droite dans plusieurs pays, notamment on peut parler des Pays-Bas récemment avec Geert Wilders, qui va être très important encore dans la reformulation, dans la recomposition des droites radicales au sein de l'Union européenne. Mais plus que la victoire des droites radicales, on peut finalement parler qu'il y a un changement d'attitude de beaucoup de partis, de la droite modérée, conservatrice, aux libéraux, même parfois des sociaux-démocrates, qui ont une politique beaucoup plus ferme sur l'immigration, mais encore une fois, avec la prise de conscience, et là c'est la différence avec les partis radicaux, qu'on peut réduire drastiquement l'immigration illégale tout en ayant besoin d'une immigration économique et dans le respect des droits humanitaires et des citoyens.
Et rien dans le programme hongrois sur l'écologie ou sur le respect de l'état de droit qui figurait en revanche à l'agenda des Belges, ça veut dire qu'il faut s'attendre à aucune avancée sur ces dossiers pendant les 6 prochains mois ?
Comme on pouvait s'y attendre, mais finalement, ce n'est pas parce que la présidence hongroise met de côté ces dossiers, c'est peu surprenant, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'ils sont mis de côté qu'il n'y aura pas d'avancée, notamment on pense au Parlement européen, dont la nouvelle mandature va arriver, et il y aura des initiatives via le Parlement européen au moins.
Il faut rappeler que la Hongrie a été mise à l'amende pour ses manquements répétés à l'état de droit. 19 milliards d'euros de fonds européens sont gelés par la Commission. Il va tenter de les récupérer. Est-ce qu'il occupe un poste qui lui permet peut-être d'avancer pour récupérer ses fonds ?
Ce n'est pas nécessairement le poste. C'est quelqu'un qui joue de toute façon, qui fait de la négociation sa ligne directrice, son fil directeur de sa politique. Il a déjà récupéré une partie sur ces sujets-là et il va continuer à essayer d'en récupérer. Et l'Ukraine, encore une fois, sera probablement l'un des objets majeurs de négociation.
Alors, avant de conclure, il y a aussi ce logo de la présidence hongroise, le Rubik's Cube, ce casse-tête inventé par un Hongrois. Quel message ? Il faut y voir que l'Europe est un casse-tête pour Viktor Orban, mais qu'une solution est toujours possible.
Unité dans la diversité, je pense que c'est le slogan de l'UE. Mais plus largement, on peut dire que la première fois qu'on voit un Rubik's Cube, on a beaucoup de mal à faire et à trouver une solution à ce jeu. Mais plus on s'entraîne, plus on y arrive facilement. Donc j'imagine que c'est la même chose avec Monsieur Orban. On sait qui c'est et on sait quoi faire.
Merci beaucoup Romain Lequignoux. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Euro Créative, laboratoire d'idées consacré à l'Europe centrale et orientale. Merci à Fabrice Violet qui a assuré la réalisation et à Éléonore Krenik qui m'a aidé à la préparer. Demain, pas de décryptage, vous avez rendez-vous comme chaque mardi avec Mardi Politique. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application Pure Radio RFI. À bientôt.